Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Simon Guillaumard. Il est membre du bureau exécutif régional Les Écologistes Bretagne. Il est venu en bus, m'a-t-il dit, pour être avec nous en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie, bonjour.
Bonjour Stéphane, merci de me recevoir.
Alors on va parler de politique ce matin sur l'antenne de Bretagne 5, on le fait chaque jour. On va parler aussi d'environnement, on va parler aussi des municipales, c'est important. Je précise que vous êtes sur Plérin, donc on va parler des municipales à Plérin essentiellement. Simon Guillaumard, on a une situation politique, j'en parle chaque matin avec mes invités, alors vous n'allez pas échapper à la question. Une situation politique très compliquée aujourd'hui. Comment se situent les écologistes dans ce paysage fracturé, y compris à la Assemblée nationale.
Oui, tout à fait. On a une situation politique inédite. Ça, tous les Françaises et les Français ont pu le constater à l'Assemblée nationale. Les écologistes, ils sont en ordre de marche. Ils travaillent, ça, il faut le dire. Les députés écologistes proposent des amendements, participent au débat sur deux lois, sur d'une partie, enfin d'un côté, le projet de loi de finances, le budget de l'État, et puis aussi stratégique, le plan de loi de financement de la sécurité sociale, dit PLFSS. Et aujourd'hui, on a proposé des amendements. Alors, il y a déjà une partie qui est passée maintenant au Sénat, sur notamment les recettes, le volet recettes qui est parti au Sénat. Il y a eu beaucoup de sujets, beaucoup de débats. On a pu voir émerger aussi parfois des majorités sur certains sujets. Aujourd'hui, nous, le budget, il ne nous convient pas. Si on s'est abstenu parfois, c'est parce que la volonté du groupe Les Écologistes à l'Assemblée nationale, c'est de débattre. Parce que c'est le sens aujourd'hui de ce qu'attendent les Français, c'est de pouvoir débattre, de pouvoir arbitrer les choses au Parlement par des votes. Et donc on l'a vu dans l'actualité récente, il y a eu notamment la taxe Zuckmann qui a été refusée, ce qui pour nous est quand même une preuve, s'il en fallait, qu'il y a une majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale contre la justice fiscale que nous souhaitons, que nous appelons de nos voeux. Et puis aussi des reculs sur l'écologie. Le gouvernement aujourd'hui annonce des réductions, je pense notamment au fonds vert, au fonds chaleur, à la rénovation des logements, où là on a des budgets qui sont en réduction et qui vont avoir des conséquences sur les collectivités locales et sur la capacité de mener des politiques dans les territoires.
Alors justement, il y a une grande inquiétude, on va y revenir aux collectivités locales, mais il y a aussi une grande inquiétude chez les Français qui voudraient pouvoir éventuellement aménager leur logement, pouvoir en tout cas l'isoler pour l'hiver, avec l'incertitude des budgets. Faut arriver néanmoins à faire des économies et préserver certains budgets, sanctuariser, c'est un mot un peu galvaudé, certains budgets.
Oui, tout à fait. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Il y a eu une volonté, par exemple, de fiscaliser un certain nombre d'arrêts maladie, de toucher aussi à la désindexation des retraites, le gel des dépenses sociales, un certain nombre de dépenses qui touchent, en fait, 99% des Français, parce qu'on ne veut pas toucher aux 1% des plus riches, aux multinationales, à ceux qui ont les moyens de contribuer à la solidarité nationale. Et ça, pour nous, c'est très problématique. Je parlais de la taxe Zuckmann tout à l'heure. Il y a d'autres dispositifs qui posent problème. Là, on l'a vu dans l'actualité, il y a la loi Dutreil, qui est beaucoup remise en question, puisqu'on avait un dispositif qui, pour que tout le monde comprenne, permettait à des héritiers d'hériter de l'entreprise familiale en ne valorisant pour l'héritage que 25% de l'entreprise. Et ça, en fait, c'est un dispositif qui, censément, devait coûter 500 millions d'euros et qui en coûte plus de 5 milliards tous les ans, avec une inégalité qui est reproduite par l'héritage. Et donc ça, c'est des dispositifs sur lesquels nous, on pense qu'il faut, s'attaquer à ces dispositifs pour remettre de la justice sociale, justice fiscale, parce qu'aujourd'hui, on le sait, il nous manque à peu près 10 milliards d'euros de recettes et il faut aller trouver l'argent, mais c'est certainement pas sur les Françaises et les Français qui travaillent qu'il faut aller chercher cet argent.
Alors justement, la Cour des comptes a pointé cette fameuse loi Dutreil avec néanmoins une forme de ligne rouge un petit peu psychologique, si vous me permettez le terme. Les Français, dès qu'on touche à l'héritage, ça passe pas.
Oui, alors après, là, on parle pas de l'héritage des Françaises et des Français. On le rappelle pas assez souvent, mais en fait, 80% des Français ne payent pas d'impôts sur l'héritage, ne payent pas de taxes, puisqu'il y a une exonération de 100 000 euros. Donc déjà, il faut hériter de plus de 100 000 euros pour être imposé. Et ensuite, c'est progressif. Là, on parle d'un dispositif qui est une niche fiscale, qui permet d'hériter d'une entreprise familiale de ses parents, avec un abattement qui est très important. Et elle est même, c'est là que le dispositif est complètement fou, d'hériter de certains biens luxueux qui sont considérés comme des biens ou des outils professionnels, tels qu'un jet privé ou un yacht, qui, lorsqu'ils sont utilisés une fois dans l'année pour faire fonctionner l'entreprise, sont considérés comme des biens d'entreprise. Donc là, on a une reproduction des richesses qui est invraisemblable et qui ne bénéficie qu'à certains, puisque pour vous donner la moyenne des financements, en fait, 30 millions d'euros, c'est l'héritage moyen avec la loi Dutreil. Donc on n'est clairement pas sur la petite boulangerie, sur la petite entreprise familiale. On est vraiment sur, le grand patronat qui se fait de l'argent sur le dos des Françaises et des Français.
Est-ce que vous avez du mal à comprendre finalement qu'aujourd'hui, on se retrouve avec justement le patronat qui a peur d'une taxe supplémentaire? Et on entend certains grands patrons, ils se sont exprimés dans les médias en disant « si nous on nous taxe, on va peut-être envisager d'aller délocaliser notre activité ailleurs ». Est-ce que c'est un argument que vous entendez aussi ?
C'est une drôle de vision du patriotisme et de l'amour qu'on a pour son pays, de vouloir partir à la première taxe supplémentaire. Non, moi je crois surtout qu'il y a beaucoup de patrons qui sont d'accord de payer des cotisations, qui sont d'accord de payer des impôts.
Alors il y en a aussi, pour respecter l'équilibre.
Voilà, et notamment j'ai entendu le syndicat aussi des TPE et PME, qui n'est pas sur cette position-là, qui n'est pas sur la position du MEDEF, et qui est prêt à contribuer aussi à l'effort national. On le voit aujourd'hui, il y a des inégalités dans le pays qui se sont creusées.
Inégalité là aussi économique, parce qu'on voit que c'est plutôt les petits patrons qui sont prêts à mouiller la chemise, si vous me permettez le terme, pour un effort national, alors que les grands patrons ne le seraient peut-être pas.
Et c'est ça aussi le sujet. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, à un moment donné, poser la question des multinationales, des très grands groupes, qui aujourd'hui sont ceux qui bénéficient le plus de dispositifs de niche fiscale, qui peuvent aller domicilier leurs bénéfices à l'étranger, qui bénéficient aussi d'allègements de cotisations sociales, les fameux 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises dont avait parlé le sénateur Gay au Sénat avec son rapport. Moi, je crois que c'est là qu'il faut aller. C'est-à-dire, typiquement, je vous propose une chose, c'est on a parlé du gel des dépenses sociales, mais les écologistes ont proposé un amendement pour le gel des cotisations, des allègements de cotisations sociales. Mmh. Et ça me paraît intéressant, de dire on inverse le rapport de force. Ce n'est pas un gel des dépenses sociales, c'est un gel des allègements de cotisations sociales. Et ben là, bizarrement, il n'y a plus personne pour voter ça, donc c'est assez surprenant. Effectivement, on est prêt à faire peser l'effort sur 99% des Français, mais pas sur les 1% des multinationales ou des très grandes fortunes.
Alors, on voit aussi une division politique à l'Assemblée nationale. C'est presque un lieu commun de le dire depuis la dissolution, avec le camp de la droite qui se divise, le PS qui se divise, les écologistes sont là. Alors, quelle alliance vers le PS, vers LFI que l'on entend beaucoup, et le Rassemblement national que l'on entend aussi beaucoup dans l'hémicycle? On a l'impression que la fracture est très profonde.
Le sujet, en fait, c'est qu'on a été élus. Les députés écologistes ont été élus sur un programme qui est celui du Nouveau Front Populaire et une alliance, celle du Nouveau Front Populaire. Les écologistes ont une grande constance, vous pourrez le constater, sur ce sujet. Nous sommes pour l'union de la gauche, nous l'avons toujours été et nous le sommes toujours. Effectivement, on n'est pas aveugle, il y a des tensions évidentes au sein de la gauche aujourd'hui, mais nous voulons incarner un pôle de stabilité de cette union. C'est le sens aussi de nos positions à l'Assemblée nationale. Je pense par exemple à un amendement qui a beaucoup fait parler dans le PLFSS, qui est l'amendement sur le décalage de la réforme des retraites dans le temps, puisqu'il ne s'agit pas d'une suspension mais d'un décalage de l'application. Les écologistes ont voté pour une raison très simple, c'est que ça nous offre un répit pour des centaines de milliers de Français qui vont voir 3 mois de retraite gagnés. Donc c'est souvent 3 mois de vie gagnée, il faut le dire. Donc ce n'est pas une victoire, c'est un simple répit, mais nous avons décidé de voter pour. C'était pas le cas de toute la gauche, il y a eu des débats, on respecte les positions des uns et des autres. Nous ne pensons pas que c'est une victoire, nous ne pensons pas que c'est une avancée, nous pensons que c'est simplement un répit. Nous continuons à être pour l'abrogation totale de cette réforme Borne de 2023 qui nous semble complètement inique. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi respecter qu'il puisse y avoir des différences à gauche. Maintenant, il ne faut jamais oublier qu'on a été élu sur un programme, celui du Nouveau Front Populaire, qui avait quand même une position sur la retraite.
Voilà c'était c'est une sorte de parenthèse, finalement.
Tout à fait.
Alors, justement, on va avoir des échéances électorales, ça ne vous aura pas échappé. On va parler des municipales tout à l'heure. Il y aura aussi la présidentielle en 2027. Est-ce qu'il y a urgence que la gauche discute, même si c'est parfois un petit peu à l'empoignade, et reforme une union au risque de voir quand même une union à droite. On entend beaucoup de voix à droite qui parlent, enfin en tout cas qui plaident pour une union de la droite. Ça va de Reconquête à LR. Est-ce qu'il y a urgence à parler, à se comprendre, à s'entendre ?
Oui, il y avait urgence en 2024, il y a toujours urgence. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et aujourd'hui, il faut continuer à faire front. Et on le voit, en fait, à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de divisions, mais lorsqu'il s'agit de voter contre les propositions du Rassemblement national, la gauche est toujours unie. Est toujours unie lorsqu'il y avait notamment, par exemple, sur la résolution sur les accords avec l'Algérie. On voit, la gauche est unie. Et en fait, c'est sur cette union-là qu'il faut capitaliser. C'est de dire, on ne peut pas laisser l'extrême droite gagner en 2027, ni avant.
Avec quand même une progression de Rassemblement National. Aujourd'hui, on le donne à presque 37% dans certains sondages. Alors là encore, on reste extrêmement prudent sur les sondages. On est à un peu moins de 500 jours de l'élection présidentielle, donc il faut rester prudent. Mais il y a aussi les municipales, et on voit que le Rassemblement National se met en ordre de marche là aussi. Est-ce que ça va être aussi un des points à surveiller pour les écologistes, par exemple ?
Évidemment, pour nous c'est un sujet majeur, ça l'a toujours été, notamment les municipales, c'est un sujet sur nos territoires, on le voit, il commence à y avoir des candidatures Rassemblement National, y compris dans notre département, les Côtes d'Armor. C'est quelque chose qui nous inquiète énormément, évidemment, sur lequel on est très vigilant, et y compris dans certaines plus petites communes, des villages, dans lesquels il pourrait y avoir des listes sans étiquette. On le sait, il y a beaucoup de sans étiquette, et il faut faire attention à ce que sur les valeurs, on soit sûr qu'il n'y ait pas non plus une forme d'entrisme de certains partis, pour porter des idées parfois de manière, de façon cachée, qui puissent être des idées évidemment qui ne correspondent pas, on va dire, au champ républicain tel que nous le connaissons actuellement.
Alors la Bretagne échappait au vote Rassemblement National depuis de nombreuses années. Là, on a l'impression depuis les dernières échéances que le Rassemblement National s'installe aussi en Bretagne. Il y a des questions que posent les Bretons, des questions de sécurité en particulier, apanage du Rassemblement National s'il en est. Est-ce qu'il faut s'emparer de ces questions de sécurité à gauche aussi, et pourquoi pas au niveau de l'écologie ?
Évidemment, la sécurité, c'est un sujet majeur. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on entend par sécurité ? Et je pense que là, il y a un malentendu avec la droite et l'extrême droite. Quand on parle de sécurité, nous, on parle de sécurité globale, c'est-à-dire, typiquement, pour nous, la santé environnementale est aussi rentre dans ce que l'on appelle la sécurité. Le fait d'avoir une sécurité sociale rentre dans la sécurité. On fête les 80 ans de la sécurité sociale, c'est de la sécurité. C'est comment on fait en sorte que les gens puissent ne pas être précarisés et puissent affronter les événements de la vie sereinement. Mmh. Et donc, on va même jusqu'à proposer aujourd'hui une sécurité sociale de l'alimentation. C'est des éléments sur lesquels il faut aller. Parce que ça aussi, c'est la sécurité. Et je trouve qu'on parle trop souvent de la sécurité sous le prisme de la délinquance et de la criminalité, qui est un réel sujet. Faut jamais l'oublier, mais la sécurité, les forces de l'ordre, c'est un service public de proximité. Parfois, on l'oublie un peu, et quand on voit certaines révélations récentes, il y a aussi des questions à se poser sur le fonctionnement de ce service public, parfois aussi de la part des forces de l'ordre. Je fais référence à ce qui s'est produit à Sainte-Soline, et des révélations de Libération et Mediapart qui font froid dans le dos. Mais évidemment que la sécurité, c'est un enjeu du quotidien. On pense aussi évidemment à la question des femmes dans l'espace public, des minorités qui peuvent être aussi les cibles de violences, et c'est tout à fait intolérable. Et puis je pense aussi à d'autres violences comme le narcotrafic.
Alors justement, le narcotrafic, on va en dire un mot, parce que ça touche aussi les écologistes de près. Amin Kessassim, militant écologiste qui a entamé, j'allais presque dire, une lutte contre le narcotrafic à Marseille suite à la mort de son frère aîné, a vu son petit frère assassiné la semaine dernière. Hier, c'était les obsèques de son frère. Amin Kessassi, qui aujourd'hui signe une tribune dans Le Monde, non, je ne me tairai pas, je dirai, répéterai que mon frère Mehdi est mort pour rien, je dirai la violence du narcotrafic. C'est courageux, cette position de ce jeune homme d'un peu plus de 20 ans. Est-ce que c'est aujourd'hui une des luttes les plus importantes, le narcotrafic, enfin contre le narcotrafic, et les politiques doivent s'en emparer aujourd'hui, selon vous ?
Oui. Déjà, je veux redire ce que j'ai eu l'occasion de dire sur les réseaux sociaux, mais toute ma solidarité à Amine, à sa famille et ses proches, suite au décès de Mehdi, son petit frère. Moi, Amine, je le connais, je l'ai rencontré lors de la campagne des Européennes, il a un an de plus que moi. Il m'avait agréablement surpris par son courage et sa force de caractère face à ces réseaux mafieux. Son petit frère voulait devenir policier après avoir hésité à devenir infirmier. C'est quelqu'un qui voulait s'engager pour les autres. Et aujourd'hui, son décès, qui correspond à un assassinat d'avertissement, doit faire un électrochoc dans la société. Et oui, les écologistes, on le voit à cette occasion, sont mobilisés sur ce sujet. Et donc nous, on le dit, on apporte tout notre soutien à Amine. On sera toujours derrière lui. Et il a écrit un très beau livre qui est sorti il y a un mois, « Marseille essuie tes larmes ». Aujourd'hui, il faut que Marseille essuie ses larmes. Et évidemment qu'il faut un grand plan de lutte contre le narcotrafic. Mais surtout, il faut sortir aussi d'une logique qui est uniquement répressive. On le voit, ça ne marche pas. Ça fait des décennies qu'on fait du tout répressif. Ça ne marche pas. Il faut aussi porter le sujet de l'éducation populaire dans les quartiers populaires. Il faut que l'État réinvestisse les quartiers populaires, investisse dans l'éducation, dans la santé, dans l'économie. Parce qu'aujourd'hui, il faut offrir des débouchés aux jeunes de ces quartiers.
On a laissé ces quartiers à l'abandon, finalement.
Oui, et c'est ce que dénonce Amine aussi. Il ne parle pas que des réseaux mafieux. Et c'est aussi parler de ces quartiers délaissés. Et c'est ce qu'il avait porté lors de la campagne des européennes, lors des législatives. Et je trouve que c'est vraiment pertinent de dire cela. Et je veux faire un lien avec le budget. Parce que, vous voyez, la boucle est un peu bouclée, mais Amélie de Montchalin, qui est ministre des Comptes Publics, avait dit lors d'une interview sur un plateau télé, assez calmement, dans une forme d'assurance un peu bourgeoise, avait dit « Oui, on voit aujourd'hui, avec la baisse démographique, certainement qu'il faut plus de policiers et de militaires, et sans doute moins de professeurs. » Moi, je pense que c'est une grave erreur de penser comme ça. Ouvrir des écoles, c'est fermer des prisons. Et je pense que raisonner comme ça, c'est perdre le combat de la sécurité, on en a parlé. La sécurité, elle doit être globale. Et en fait, aujourd'hui, offrir de la sécurité aux gens, c'est d'abord pouvoir offrir des débouchés aux jeunes. Et voilà, ça, il faut qu'on se batte pour ça, pour avoir des vrais plans qui soient concertés avec les élus locaux, les associations et les familles des victimes. C'est ce que porte Amine et c'est ce que nous portons.
Avec, là aussi, les moyens qui doivent aller avec. On a ce sentiment d'une grande désespérance d'une jeunesse de ces quartiers qui se tourne, évidemment, vers le narcotrafic aussi, pour faire de l'argent, n'ayons pas peur des mots. L'éducation populaire, vous en avez parlé, c'est là aussi où il faut mettre les moyens aujourd'hui, peut-être plus encore, pour être au contact de ces populations un petit peu en déshérence, en désespérance.
Oui, complètement. En fait, les moyens policiers, ils sont importants. C'est important qu'on puisse avoir des forces de sécurité qui travaillent sur le démantèlement des trafics, etc. Il faut le redire, mais c'est important. Mais effectivement, le deuxième pilier, c'est aussi les logiques dites de prévention ou d'accompagnement. Et effectivement, les éducateurs, le travail qu'ils peuvent faire dans les quartiers populaires, les associations sportives aussi, qui ont un rôle, et culturel, qui ont un rôle très important pour justement ouvrir l'esprit des jeunes et leur permettre de s'éveiller et de sortir aussi de leurs propres conditions. Bah, c'est éminemment important. Et aujourd'hui, on le sait, les budgets sont... Enfin, moi, je suis très inquiet du budget pour les associations, mais ça concerne aussi typiquement les MJC, par exemple, qui sont des endroits et des outils pour justement lutter contre la gangrène des trafics qui captent les jeunes de plus en plus jeunes et qui les emmènent dans une spirale de violence qui est parfois irréversible.
Avec aussi une forme d'entrisme religieux, on le voit. Là aussi, il ne s'agit pas de pointer du doigt une religion plus qu'une autre, mais on le voit, il y a une forme aussi d'entrisme religieux qui est plus un entrisme politique. Est-ce que là aussi, il faut être prudent, il faut avoir un œil sur ce qui se passe ?
Évidemment, il y a 10 ans, il y avait les attentats du 13 novembre à Paris et on s'est souvenu, on a commémoré ces attentats. Évidemment qu'il faut faire attention au terrorisme. D'ailleurs, le narcotrafic a certaines caractéristiques en un sens du terrorisme. Alors aujourd'hui, évidemment, le terrorisme, il est multifactoriel. On peut penser évidemment au terrorisme islamiste, mais on peut aussi penser au terrorisme d'extrême droite qui se développe énormément partout sur la planète.
Donc, on le voit ici en Bretagne en particulier.
Exactement, avec des actes qui sont de plus en plus violents, des profanations de tombes, des tags, etc., des attaques fascistes dans nos rues. Donc effectivement, il faut être très vigilant sur ces questions-là. Et évidemment, il faut investir, mais comme je disais tout à l'heure, les questions de sécurité, elles doivent être pensées dans une logique globale et transversale de politique publique.
Je parlais tout à l'heure d'une France très fracturée. Alors au niveau politique, elle l'est aussi au niveau social, on le voit. Vous parliez du terrorisme d'extrême droite, hein, terme générique, mais qui veut dire ce qu'il veut dire, comme l'on dit. Avec par exemple cette messe au Maréchal Pétain à Verdun, j'avais envie de vous entendre là-dessus, parce que c'est loin d'être anecdotique. On a une forme de libération de la parole, d'une parole qui revient de très loin et qui ne rappelle pas de bons souvenirs.
Oui, complètement. Et ça doit tous nous inquiéter. Moi, quand j'entends les propos des gens qui étaient devant cette église, c'est extrêmement grave les propos qu'ils tiennent. Je rappelle que Pétain a été condamné à l'indignité nationale, c'est un traître à la nation, c'est quelqu'un qui a collaboré, qui a déporté, participé à la déportation des juifs et des minorités de notre pays. Donc on doit s'inquiéter, et là il faut que les valeurs républicaines prennent le pas. Et c'est pour ça que je suis très inquiet de voir les alliances parfois qui sont faites à l'Assemblée nationale, où on a l'impression que les barrières tombent. Mais c'est extrêmement grave. Le cordon qui tombe, c'est la France qui peut basculer dans le fascisme. Nos institutions, et il y a eu beaucoup de stress tests faits à notre modèle et notre constitution, nos modèles d'institutions, ne tiennent pas un an, il y a quelques mois. Donc il faut vraiment se méfier, il faut toujours être vigilant. Et oui, je ne peux que condamner ce type de rassemblements qui sont d'une gravité sans nom, parce que en fait, on tolère dans notre espace public des résurgences du fascisme, il faut le dire très clairement, et c'est inacceptable.
Il y a une condamnation assez unanime des politiques, pour prendre un terme générique, et du maire de Verdun qui avait demandé l'interdiction. Le tribunal administratif en a décidé autrement. Là aussi, c'est un mauvais signal envoyé.
Oui, on respecte les décisions de justice, c'est évident. Mais oui, c'est un mauvais signal envoyé. Et donc, il faut que nous, on soit là dans la rue. Moi, j'ai beaucoup apprécié qu'il y ait évidemment des manifestants devant l'église qui ont parlé aussi et qui ont dit. Moi, j'ai vu une dame avec une pancarte « Cato, mais pas facho ». Effectivement, moi, je suis citoyen français et je suis pas facho, et j'irai le dire dans la rue s'il le faut. Et évidemment qu'il faut qu'on se mobilise pour créer un front antifasciste dans les rues, c'est évident. Et puis voilà, c'est l'espace public, et à nous de le réapproprier, de se réapproprier.
Alors, on a beaucoup parlé de sécurité en règle générale et de la façon la plus large. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a aussi des préoccupations sociales. Les Français s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat, pour leur logement. Peut-être un petit peu moins en ce moment pour l'environnement, pour l'écologie. Quoique, vous allez peut-être pouvoir me démentir, qui passe un peu au second plan. Ça vous inquiète, ça aussi?
Oui et non, parce que je pense que l'écologie, elle est transversale. En fait, quand on s'inquiète pour l'isolation de son logement, on s'inquiète aussi de l'état de la planète. On oppose souvent écologie et social, mais il ne faut pas le faire.
C'est propos.
Non, je sais bien, mais c'est pour dire que lorsque l'on se préoccupe de sujets sociaux, derrière, il y a aussi l'écologie. Et inversement, quand on fait de l'écologie, on fait aussi nécessairement du social. En fait, la justice sociale et la justice écologique, elle est vraiment intimement liée. Je vous donne un exemple. Là, aujourd'hui, dans le budget, on parle de réduire, et je l'ai dit précédemment, le fonds vert. Ou le fonds chaleur, ou les budgets pour la rénovation, le logement social, la rénovation thermique des bâtiments. Quand on réduit ces politiques-là, on touche au social, parce qu'on touche évidemment à la facture des gens, les pistes cyclables, les transports publics, on va toucher à tous ces sujets-là. On s'attaque au portefeuille des Français, à leur pouvoir d'achat.
36% des Français n'arrivent plus à payer leur facture de chauffage, hein, c'est quand même énorme,
36%. Évidemment, et c'est pour ça que là-dessus, il faut des budgets. C'est là qu'il faut mettre le paquet, parce qu'on sait qu'on va à la fois réduire notre empreinte carbone, et en même temps, on va pouvoir améliorer le pouvoir d'achat et le pouvoir même de vivre, je préfère ce mot, le pouvoir de vivre des Françaises et des Français. Donc c'est pour ça que je dis, il ne faut pas opposer les deux, et effectivement, oui, certains veulent croire que l'écologie est dépassée de ça, mais moi je ne pense pas. Je pense vraiment qu'on l'a vu sur la loi Dupont cet été, il y a encore une mobilisation qui est très forte dans notre pays, les gens ont compris qu'on ne pourra pas avoir un monde vivable demain si on ne s'intéresse pas à la question de l'écologie. Donc elle est dans toutes les têtes. Maintenant, il faut mettre des moyens, il faut que les politiques se mobilisent.
Alors avec une jeune génération, vous en êtes l'exemple, qui se mobilise aussi pour la planète et qui se mobilise aussi pour les municipales. Vous me voyez venir, les échéances des élections municipales, alors sauf dissolution, on n'est pas à l'abri forcément qui pourrait retarder cette échéance, mais voilà, en mars, on va voter en France pour élire nos maires, nos conseils municipaux. Aujourd'hui, le maire et le conseil municipal, c'est la première représentation de la République auprès des citoyens. Et pourtant, même s'il y a une grande confiance dans son maire, on voit quand même que c'est de plus en plus dur pour les élus, les édiles locaux, de pouvoir exercer leur charge. Est-ce que là aussi, c'est une inquiétude avec des incivilités ou encore tout simplement la complication administrative ?
Oui, on le voit. Après, il faut distinguer. Il y a un très beau documentaire qui est sorti sur Public Sénat, « Maire à vif ». Qui fait le portrait de plusieurs maires. Je pense qu'il faut distinguer les élus des toutes petites communes, qui parfois font tout dans la commune. Je pense à des tout petits villages de quelques centaines d'habitants, et les grandes villes, et les villes moyennes. On n'a pas du tout les mêmes infrastructures. Et à la ville de Plérin, il y a plus de 300 agents. C'est pas tout à fait la même chose que d'être dans une toute petite commune, aux Feuilles, par exemple, dans notre agglomération. Il y a des réalités qui sont complètement différentes. Donc effectivement, les élus aujourd'hui qui ont le mandat le plus compliqué, c'est les petits élus qui font tout dans la commune. Et à cela, évidemment, il faut renforcer le statut de l'élu local. Pour les autres, évidemment qu'il y a des sujets. Je repense à l'agression du maire de Saint-Brieuc, Hervé Guillard, qu'on avait connu. C'est évidemment qu'il y a des sujets d'incivilité, il y a une violence qui monte dans la société. Évidemment, les élus locaux sont confrontés à ces sujets-là, c'est évident. Mais moi, je pense surtout qu'aujourd'hui, la commune, dans un contexte national et international, qui se tend et qui est de plus en plus complexe, l'échelon local doit être celui qui protège, qui rassure, qui est un pôle de stabilité, où finalement, on change la vie du quotidien et on prépare les lendemains. C'est le rôle des collectivités locales de faire ce filet de sécurité, de revenir aux fondamentaux des services publics, sur l'eau, sur les déchets, sur l'école, sur les transports. On doit être au rendez-vous parce que les territoires doivent être des lieux où on permet la vie digne et de préparer, d'anticiper surtout l'avenir, parce qu'on le voit, il y a de grands défis et les collectivités doivent être au rendez-vous.
Il y a des attentes aussi, hein, des administrés. Alors rappelez, hein, ça va se passer comment? Il y a une liste, évidemment, les écologistes qui va être présentée.
Alors pas une liste des écologistes, je participe avec d'autres. On a créé un collectif qui s'appelle Plérin Autrement, qui est un collectif apartisan, qui ne se revendique pas d'une étiquette politique particulière, de la gauche rassemblée mais ouverte. On a aussi des centristes. Et en fait, l'objectif de notre collectif, il est simple, c'est de répondre à une attente de changement des Plérinais et des Plérinaises, qui aujourd'hui sont, on peut le dire, face à un constat, c'est que Plérin mérite mieux. Et donc, une question qui est venue pour notre collectif, c'est de se poser la question suivante, dans quelle ville voulons-nous vivre ? Dans quelle ville voulons-nous vivre ? C'est une question fondamentale, parce qu'aujourd'hui, à Plérin, on le voit, il y a une bétonisation toujours plus galopante, des finances qui sont dans un état problématique, qui vont amener aussi, avec un contexte budgétaire national, à faire des choix politiques. Et nous, notre proposition, c'est d'associer les habitantes et les habitants. C'est-à-dire de reposer dans toute la construction de notre programme avec les habitants et les habitantes, les associer. On avait lancé une consultation en ligne au début de l'été. On a commencé à faire des réunions participatives. On va aussi vers les habitants, sur les marchés. On essaye de faire des apéros, des cafés, voilà, pour discuter avec les gens, regarder quelles sont les attentes. Et aujourd'hui, voilà, on fait le constat de deux choses. Un, il faut du changement. Et deux, il faut une équipe capable de porter un projet crédible, pragmatique, pour changer la vie et des Plérinaises et des Plérinais.
Alors, on a vu une passe d'armes. Alors, on en a parlé avec Ronan Cadraon, qui était notre invité il y a quelques jours à ce micro. Une passe d'armes entre vous, Simon Guillaumard et le maire de Plérin, autour d'une histoire de feuilles. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais on a senti quand même qu'il y avait une forme de tension quand même.
Oui, en fait, je pense qu'il y a aussi deux mondes qui s'affrontent. On a une équipe municipale qui est en place depuis bientôt 18 ans. Peut-être une autre manière de faire de la politique, peut-être d'autres pratiques du pouvoir. Nous, notre engagement, il est celui de la sobriété, de l'intérêt général, et effectivement, on porte ces valeurs-là, mais c'est vrai que là, on est face à parfois des vieilles pratiques du pouvoir. Et donc, on a eu, moi j'étais très surpris, j'avais pas du tout fait un poste polémique, j'avais simplement signalé qu'effectivement, en descendant au Rosaire, à vélo, il y avait quelques feuilles qui pourraient potentiellement avoir un petit coup de souffleur et être nettoyées.
Alors, les Rosaires, c'est la plage des Rosaires.
La plage des Rosaires, tout à fait, à Plérin. Et c'est vrai qu'il y a une réaction du maire complètement disproportionnée qui m'a franchement surpris. Et pour laquelle, moi, je me suis dit, il ne faut pas laisser passer. Donc, je l'ai dit sur les réseaux sociaux en me disant non, traiter de con et de gland un opposant politique, ça n'est pas acceptable dans le débat public. Et il ne faut pas accepter ce genre de choses, sinon, après, c'est l'escalade. Il n'y a pas de volonté de surenchère. Moi, je ne veux pas faire de polémique. C'était pas ma volonté. On appelle juste au respect des uns et des autres dans le débat. Et voilà, dire que c'est stop, c'est fini. On ne va pas rentrer dans ce type de pratique-là et de polémique. Voilà. Donc, un mot. Juste de dire, il faut qu'on se respecte les uns les autres, quoi.
Vous avez réussi à parler avec Ronan Cadraon depuis ?
Non, on n'a pas échangé, voilà.
Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Simon Guillaumard, membre du bureau exécutif régional Les Écologistes de Bretagne, qui était avec nous pour commenter l'actualité politique. Elle est importante en ce moment, et évidemment. Les municipales, vous reviendrez au micro de la matinale. Merci infiniment, très belle journée.
Merci beaucoup.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.